Le yiddish, aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Et puis d'abord, bonne année à tout le monde.
Oui.
Voilà, donc nous, à Goutior, on peut dire, même si c'est pas très... C'est une, oui, la nouvelle année chrétienne n'est pas juive, mais ça fait rien, on peut quand même dire à Goutior.
Ouais.
Voilà, donc nous quittons Odessa, dans lequel nous avons séjourné fort longtemps.
Oui. On y reviendra.
On y reviendra sans doute, oui. Et puis je voulais présenter un livre qui en fait est consacré à un des premiers auteurs qui écrit en hébreu, à savoir Yosef Chaim Brenner, né en 1881, mort en 1921. Et c'est un livre qui a été écrit par Rosie Pinchas Delpuech, qui est née à Istanbul dans une famille polyglotte. Elle a étudié la philosophie et la littérature en France et elle a rencontré la langue hébraïque en Israël et elle est essentiellement traductrice de l'hébreu en français. Mmh. Alors pourquoi parler dans une émission sur le yiddish, parler d'un livre qui parle d'un auteur hébraïque? Eh bien parce que justement c'est le moment où yiddish et hébreu se mélangent, où la coupure n'est pas encore très nette. Hein. Donc là nous sommes dans les années 1900 qui sont vraiment l'apogée du yiddish et puis la naissance de l'hébreu. Et en fait, les deux langues, finalement, coexistent, avec évidemment chacune qui a ses défenseurs, mais aussi beaucoup de gens qui parlent les deux langues et qui écrivent dans les deux langues, surtout. Et donc, dont l'exemple qu'elle cite d'ailleurs dans le livre est Moshe Meucher Sforim, donc Mendeleu, excusez-moi, Meucher Sforim, donc le grand écrivain yiddish, mais aussi hébreu, hein, dont on dit qu'il a fondé la littérature hébraïque et la littérature yiddish, voilà, et qui est un des exemples de Brenner. Donc c'est une période où, finalement, il n'y a pas vraiment de lutte entre les deux langues, et surtout, il n'y a pas, comme il y a eu ensuite en Israël, la volonté d'écraser le yiddish, de le faire disparaître pour pouvoir promouvoir l'hébreu.
C'est peut-être on peut dire que c'est une tradition que prolonge Michel Tauber brillamment.
Oui, c'est vrai.
Elle chante dans les deux langues, elle parle des deux langues plus certaines autres, et elle fait vraiment le lien, je trouve.
Oui, oui.
D'ailleurs, c'est elle qui avait invité.
Oui, c'est vrai qu'elle l'avait invité à la librairie Kléber. Voilà, donc. Oui, alors dans ce genre, il y a aussi Chava Halberstein qui, elle aussi, chante dans les deux langues et chante très, très joliment en yiddish et aussi, évidemment, en hébreu. Ouais. Mais il y a quand même quelques personnes qui arrivent à conjuguer les deux langues, mais elles sont de plus en plus rares. Et c'est vrai que, par exemple, Rosie Pinchas Delpuech dit elle-même qu'elle ne sait pas du tout le yiddish. Donc, elle peut déchiffrer le yiddish puisqu'elle sait très bien l'hébreu. Mais elle ne le parle pas. Ceci dit, elle cite quand même pas mal de choses en yiddish. Donc en fait, mon but est de retrouver, si on veut dire, le yiddish sous l'hébreu, c'est-à-dire de citer dans ce livre en particulier les passages où il est question du yiddish. Voilà, donc Brenner, comme elle dit, va écrire dans une langue qui n'existe pas encore, qui est l'hébreu moderne. Et ses modèles sont Gogol, Dostoïevski, voilà, donc la grande littérature russe est quand même très présente chez d'ailleurs tous les auteurs de cette époque, les auteurs juifs, je parle, qu'ils écrivent en yiddish ou en hébreu, et aussi Mendeley Meucher Sforim. Et c'est là que, elle met Brenner avec Bialik et Agnon, les deux grands écrivains hébraïques qui sont beaucoup plus connu que Brenner, dont j'ai découvert, je dois dire, l'existence en lisant son livre. Et elle dit que c'est la même période où Zamenhof invente l'espéranto. Zamenhof qui était un polyglotte, qui parlait le polonais, l'allemand, le yiddish, l'hébreu, et qui invente cette langue destinée à être être parlée par tout le monde et qui finalement n'aura pas beaucoup de succès. Et c'est aussi le moment où c'est vraiment l'explosion de la littérature yiddish dans les journaux qui traitent de thèmes politiques, culturels, le théâtre. Et aussi énormément de traductions de toutes les langues vers le yiddish. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant, combien on a traduit en yiddish. Toutes les œuvres, depuis l'Iliade et l'Odyssée, jusqu'à des œuvres tout à fait récentes, comme la fin de Knut Hamsun, par exemple, qu'a traduit Bashev Zinger. Elle dit que le yiddish sera assassiné. Bon, la disparition du yiddish, c'est aussi un grand thème sur lequel on ne va pas s'étendre. Et que l'espéranto n'aura pas un grand succès. Et donc, la seule langue qui, finalement, s'est vraiment développée, contrairement à tout ce qu'on aurait pu penser à l'époque, c'est l'hébreu. Alors voilà, donc là, ce Brenner va arriver à Londres, à Whitechapel, en 1904. Il a été précédé par Jack London, qui va faire des reportages sur ce peuple miséreux de Whitechapel. Brenner y arrive parce qu'il veut échapper au service militaire russe, qu'on appelle le Pridziv, ça c'est dans Sholom Alechem, que vous trouvez ce mot. Et son but est d'aller en Amérique. Bialik l'aide, semble-t-il, à partir de Russie pour arriver à Londres, mais il ne peut pas aller plus loin. Et il va donc vivre à Londres 4 ans, de 1904 à 1908. C'est un moment où il y a énormément de travailleurs à Londres, dont beaucoup d'illégaux et environ 100 000 juifs. Et donc beaucoup, évidemment, venant d'Europe de l'Est, qui fuit les pogroms. De 1881 à 1914, on compte qu'il y a environ 180 000 juifs qui arrivent en Angleterre, hein, pas seulement à Londres, fuyant en particulier les pogroms d'Odessa de 1871, dont nous avons parlé. Il y a une sociologue qui s'appelle Béatrice Potter-Webb qui les décrit en disant ce sont des aborigènes de l'East End, puisqu'on estime que ces juifs ont toujours un aspect un peu oriental. Ça se voit aussi chez Proust, hein, l'idée que les juifs viennent de... Ils sont des Assyriens, ils sont des... ils sont des orientaux, voilà. Donc elle parle même d'aborigènes, voilà. Donc, il est accueilli par l'expression « Gewalt », hein, c'est-à-dire « au secours hein, », donc dans cette énorme misère absolument sordide dans laquelle vivent pas seulement les Juifs, mais en particulier les Juifs. Et donc, dans ces sweatshops, hein, ces fabriques de la sueur, donc où ils travaillent sur de la confection. Et... Rosie Pinchas Delpouège fait une petite digression en disant que le sweatshirt est devenu le sweet que portent tous les ados, et sweet ça veut dire doux, hein, sucré. Hein. Voilà, et donc ces vêtements qui étaient des vêtements de travail imbibés de sueur sont devenus des petits prononcés sweet, hein, finalement sweatshirt, donc à la mode quoi, que portent tous les ados.
Et donc c'est le même vocabulaire qu'on retrouve et la même misère aussi que les immigrants qui sont partis aux États-Unis.
Voilà, donc on a vraiment trois lieux de misère. Il y a évidemment l'Europe de l'Est où il y a là à l'époque aussi, déjà en particulier à Lodz, tous ces ateliers de confection où les gens travaillent dans des conditions épouvantables, où il y a des grèves et vraiment la vie est très dure. Et puis aussi dans cette zone de résidence hein, où les gens meurent de faim. Et puis Londres. Et évidemment aux États-Unis, oui, comme tu l'as dit. C'est-à-dire les émigrants qui arrivent aux États-Unis ne trouvent pas le golden dinner, mais ils trouvent des conditions extrêmement difficiles. Voilà, donc parmi ces 180 000 personnes qui arrivent juives, elle emploie le mot de Luftmenschen. Oui, parce que ce sont des gens qui vivent de l'air du temps. Alors, ils fondent des Chevres, dans des groupes, ils prient dans des Stibler. Et là, elle fait un parallèle avec Tel Aviv, où dans les premiers bâtiments de Tel Aviv, qui étaient construits sur le sable, qui étaient très fragiles, il y avait aussi des petites pièces comme ça, où les gens priaient. Et donc, ces gens se présentent sur le Chazarmarkt, hein, le mot à mot, le marché des cochons, mais en fait, c'est un marché des travailleurs. Et on reproche aux Juifs d'accepter tous les travaux, de casser les salaires. Ils travaillent dans la confection et ils forment ce qu'on appelle un Lumpenproletariat. Et donc, il y a des journaux en yiddish. Alors, elle rappelle qu'à l'époque, on enveloppait les aliments dans des journaux. Mmh. Et donc, elle a encore vu à Tel Aviv des gens qui enveloppaient dans des journaux en yiddish. Et là, je voulais rappeler un passage de Soutzkever, où Soutzkever dit qu'il aimait bien faire les courses pour sa maman, parce qu'on enveloppait les harengs dans des journaux. Et donc, il lisait les fêtes maïses. Donc, il y a un jeu de mots, évidemment, ça veut dire les histoires grasses. Alors, pourquoi? Parce que le journal était gras à cause du hareng. Mais aussi, histoires grasses, parce que c'était souvent des faits divers hein, qu'il y avait dans les journaux yiddish, l'un plus horrible que l'autre. Voilà. Et en 1884 est fondé Der Polnische Jidl par Maurice Winchewski, qui est une grande figure de yiddish. Et en 1885, l'Arbeiter Freund, qui est un journal anarchiste, qui est imprimé chez quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Naroditsky. Alors, je trouve que Rosie Delpuech l'a fait comme ça des portraits de gens très... très très intéressant et vivant, en particulier un homme qui s'appelle Rudolf Rocker, qui est un catholique allemand né en 1873 à Mayence, qui va faire comme compagnon le tour de l'Europe. En 1893, il arrive à Paris, là il rencontre des anarchistes juifs qui parlent yiddish. Et en 1895, il va arriver à Londres. Et il va rencontrer une jeune juive ukrainienne qui s'appelle Milly Witkop. Et il va être nommé comme directeur de l'Arbeiter Freund, de ce journal, dont il sait un peu le yiddish, mais pas tellement. Et donc, il va diriger ce journal. Il va essayer d'émigrer en Amérique, mais comme il est en union libre avec Milly, ils sont refoulés tous les deux. Et donc, il va diriger cet hebdomadaire jusqu'en 1914, un hebdomadaire de haut niveau, contrairement au Vorwärts. Là, Rosie Delpuech lance une petite critique du Vorwärts qui se consacre beaucoup aux faits divers, alors que ce journal-là, ce Arbeiter Freund, est vraiment d'un haut niveau. Et donc, en 1904, il y a une grande salle où Rocker travaille. Il va faire 4 ans de prison pendant la guerre de 14. Hein, vous savez qu'on mettait les étrangers, enfin ceux des pays avec lesquels on était en guerre, on les a mis en prison. Ça s'est fait en France avec les Allemands, ça s'est fait en Angleterre avec les Allemands également. Mais enfin, évidemment, ils ont été libérés en 18. Hein. En 18, il retourne en Allemagne, il voit la naissance du nazisme et donc il part en Amérique avec Milly et leur fils. Et il va mourir à 85 ans dans une comuna, c'est-à-dire une commune, un endroit anarchiste. Voilà, donc un très beau parcours de ce Rolf Rocker que j'ai également découvert en lisant ce livre. Voilà, alors on va peut-être écouter une musique justement de Whitechapel.
Oui, alors il y a une très belle chanson sur ce disque qui s'appelle Whitechapel, alors c'est un jeu de mots, Whitechapel, mein Whitechapel. Alors c'est écrit d'abord Whitechapel, tel qu'on l'écrit en anglais, W-H-I-T-E-C-H-A-P-E-L, mein Whitechapel, c'est la manière yiddish de l'écrire, et qui lui donne tout de suite une connotation intime, chaleureuse, écrit V-A-Y-T-S-H-E-P-L.
Oui, sans doute, c'est comme ça que les yiddishisants l'écrivaient.
L'écrivaient et le prononçaient.
Et le prononçaient, bien sûr.
Il n'y a pas le « w », il n'y a pas le « c'est la blague habituelle, quoi, il n'y a pas le « w » en yiddish, donc on dit toujours « v » à la place, donc ça donne « weit scheppel » et le « pl », le « pl » à la fin donne comme un diminutif, ouais. Mon petit Weit Scheppel, quelque chose comme ça, c'est tout mignon.
Mais c'est comme c'est le boulevard de Sébastopol qui s'appelle Shabbos Tepel. Voilà, exactement la même construction.
Ouais. Alors, la chanson, alors le disque s'appelle comme ça, et une des chansons s'appelle également comme ça, Weit Scheppel, Mein Weit Scheppel, qui est sur... dont le texte a été réécrit par Chaim Tauber, dont les dates sont 1901-1972. Ça veut dire qu'il a dû l'écrire après la guerre. Sur une musique et une chanson antérieure qui est Skeshenever Stikele. Skeshenev, cette ville est malheureusement connue pour son célèbre pogrom, mais il n'y a pas que ça. Il y a ça veut dire le Stikele, la petite le morceau, la chanson, sur... Keshenev. Alors, je voulais d'abord faire entendre donc l'original, Keshenever Stikele, qui parle de Keshenev comme étant c'est un petit peu la même chose qu'après ce qui va se passer après sur Whitechapel que je vous ferai entendre après. C'est pour dire à la fois la misère qui y régnait et que en même temps, c'est comme souvent dans les chansons yiddish, cette opposition entre un texte quand même relativement triste, et puis le refrain qui est gay, comme si néanmoins, malgré la misère, on y danse, et les pauvres sont pauvres, mais ils ont d'autres richesses que celles des riches. Alors d'abord, Skeshenever Stikele, chanté par, comment il s'appelle, Yaakov Shapiro.
Ho, papa, haïdou dildidam, haïdai, daïdidou dildidam. Ho, papa, haïdou dildidam. Habdi babdi bibdi babdi bam. Spiel je mich les morlachs kesh ne vashte kale ober mit knyak. Hingerik ish lefarik na keten burves kesh ne nishtu kain pityak. Zemir gehe di ganze welt en ich di ganze welt geher. Du siehst auch schon festgestellt auf ein. Tomer wird mir mir nicht glauben, Tomer wird mir fragen, wer kann ich ihm beweisen, ein Kontrakt? Zures in Grisotam, Gisnefisch in Isere, seht ihr, hab ich auf dem Park? Hab ich gut nicht, darf ich gut nicht, will ich gut nicht verlieren, wenn mir mir nicht riefen kein Schudak. Ai, 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 hopp, papa, heidl, dilli, dam, heidai, dai, dilli, dilli, dam, hopp, papa, Heidel dilli dam, habdi babdi bibdi babdi bam. Spiel je mit les murem lachts, hazel es sie gene mir, bei die Käufen bin ich buschet brach. Nicht geschmeichelt, nicht gefumpft, als gesehen und nicht gegambelt, bei mir mitten bin ich hab besagt. Die reiche Hoffnung, sie viel essen, ist bei seit der Rücken schwer, liegen sie auf Datsches eingepackt. Nicht ich esse und nicht ich trink, ist bei mir der Mugen leer, kenn ich leichte Zeit tanzen zum Tag. Spiel je mir Klesmur im Land, das Hasel, als sie gehen mit mir, zu ihr so wie Gott, das war mir sagt. Im Gericht, ich schleife Rick in der Hacke, den Burwis, im Kirchen, in der Stuck, ein Mittag. Ai, 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 ho, papa, ai, du, dilli, dam, ai, dai, dai, dilli, dilli, dam. Ho, papa,
voilà, donc cette première version de la chanson que voilà. Tu nous feras entendre ensuite. Voilà, donc on continue avec les aventures de Brenner à Whitechapel. Donc il va créer une revue littéraire en hébreu. Donc c'est une revue littéraire, hein, c'est-à-dire de haut niveau, qui s'appelle un Mehorer, qui veut dire l'éveilleur. Et qui va durer de 1906 à 1908 et qui aura 24 numéros. Alors ce nom est un nom qui est très utilisé, c'est-à-dire l'éveilleur. Il y a par exemple Boone qui a un journal qui s'appelle aussi Der Wacker. Alors ensuite, Rosie Pinchas Delpouetsch fait une digression, enfin elle parle des tables de Pierre, de Moïse. Voilà, et elle dit aussi qu'à l'époque, le yiddish est infiniment plus fort que l'hébreu. Il y a beaucoup, beaucoup plus de publications. Il est parlé par des millions de personnes. Hein. Avant la guerre, il y avait 10 millions de locuteurs hein, en yiddish. Hein. Et donc, l'hébreu, c'est vraiment la naissance de l'hébreu. Mais Brenner, lui, est persuadé que cette langue va se développer. Et il se bat et il sort cette revue qu'il écrit quasiment lui-même et ou surtout qu'il édite lui-même. Hein, qu'il compose comme imprimeur et où il travaille nuit et jour sur cette revue. Alors, en 1907, se passe un événement intéressant, une rencontre avec Freud. Donc, Freud vient en Angleterre, enfin à Londres, et Brenner est informé de cela. Et donc, il va lui écrire une lettre en anglais, qu'Astrid va vous lire, parce que mon anglais est vraiment trop mauvais.
Alors, il faudrait prendre l'accent yiddish hein, pour la lettre de Brenner. Dear Dr. Freud, my name is Yosef Chaim Brenner. I am a young Hebrew writer. I have heard from friends that you are in London right now. I am in a great distress. I want to meet you today. Tell me if it is possible. Thank you in advance.
Et Freud lui répond.
Alors là, il faudrait prendre l'accent allemand. Dear Mr. Brenner, it happened. Ben, moi, j'ai plus ou moins l'accent allemand, on me l'a dit quand j'étais en Angleterre, quand je parle l'anglais. Je pense que c'est l'accent alsacien, un mélange d'accent français et d'accent allemand. Donc, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts. It happens by chance that I've heard about you through a journalist I've met last night. I'll be this afternoon at the British Museum. Let's meet at 5 p.m. in Rembrandt's drawing room. It's a quiet place for a chat.
Voilà, donc ils vont effectivement se rencontrer. Ils vont parler en yiddish, écrit Rosie Delpouège. Alors là, je suis un petit peu sceptique. Parce que je pense que Freud ne parlait pas le yiddish, mais il parlait l'allemand. Hein, ouais. Donc l'un devait parler yiddish et l'autre allemand. Bon, comme on sait que ça marche, hein, on l'a vécu nous-mêmes. Alors, elle décrit cela comme si elle y était. Je ne sais pas s'il y a eu des témoignages. En tout cas, Brenner se met à pleurer quand il parle de cette grande détresse et son malaise général, qui est aussi un malaise au niveau de sa sexualité. Et donc, Freud lui aurait dit qu'il ne faut pas avoir honte, qu'on peut être, si j'ai bien compris, à la fois homosexuel et hétérosexuel, puisqu'il dit que David a aimé aussi bien Jonathan que Bathsheba, c'est l'exemple qu'elle prend. Et apparemment, cela est tout à fait positif pour Brenner. Il va quitter Londres en janvier 1908, passer un petit peu à Lemberg, et puis il va arriver à Haïfa en février 1909. Ceci est tout à fait un autre chapitre. Alors, on va, puisqu'il quitte Whitechapel, on va écouter une chanson sur Whitechapel. Voilà. Et je crois qu'on n'aura pas le temps de faire autre chose encore aujourd'hui.
Oui, à faire entendre cette chanson, donc ce Chaim Tauber qui écrit une chanson sur nostalgique sur Whitechapel. Dans le petit texte introductif au texte de la chanson, donc ce sont ces personnes qui enregistrent ce disque et qui se sont permis à certains endroits de changer des choses ou de changer en anglais et aussi en yiddish. C'est assez personnel ce disque qui reflète bien un certain rapport au yiddish par des Britanniques. Pourquoi écrire une chanson nostalgique sur Whitechapel où l'on sait que la vie était tellement dure, tellement affreuse et tout. Et ils disent que c'est un petit peu, alors nous ça nous parle ça, dans la suite des chansons qui ont embelli la vie à Belz ou à Vilna ou à Varsovie après-guerre.
Ou à Odessa aussi.
Ou à Odessa, comme si tout avait été rose et que... Et du coup, il y a voilà, l'embellissement du passé rétroactif et puis un peu tous les clichés, les harengs, le violon, les bagels, le fait qu'on parle yiddish dans la rue. Et il dit, vers la fin de la chanson, il dit « Et maintenant, j'habite à Golders Green ». Alors ça me parle parce que quand moi j'étais en Angleterre à la fin des années 70, le quartier juif, c'était Golders Green. Alors, celui qui raconte l'histoire, celui qui chante, il a déménagé à Golders Green, mais c'est plus pareil. Whitechapel, c'était quand même mieux parce qu'il y avait toute cette vie juive. Golders Green était... Enfin, je ne peux pas comparer parce que lui, ça doit se passer dans les années 50. Et moi, je parle de ce que j'ai vécu à la fin des années 70. C'est quand même beaucoup plus tard. Bien que c'était un... beaucoup de Juifs vivaient à Golders Green. On ne peut pas dire qu'il y avait une ambiance juive dans les rues, c'était aussi une autre époque. Mais donc, il a la nostalgie de ce Whitechapel mythique. Voilà, donc cette chanson très intéressante, Whitechapel, enfin, le groupe s'appelle le Klezmer Club.
Die bist gewöhn dem Londoner Jedens Glanz. Whitechapel, mein Whitechapel, in die Eugenfelder Träge blieben ist kein Winkel, kein Ganz. Der Pavillon mit seinem Pracht verlegt du keiner jeder Nacht. Du hat gewohnt der lockschende Fabrikant. Und du gestanden ist die Schiele nächstlerhaft ihr Jelly Deals. Es ist jeder Spann, mir Lieben, geht bekannt. In fünf Pavillons linker Hand sehe ich Land aus Restaurant. Aktoren schreiben es bei jedem Tisch. Gewehen ist ein Fresser, ja dort ein Kibitzer, ja das Favorit auch mehr Lied ins Haar noch.
Voilà, ben on vous dit shalom aleichem, à la semaine prochaine.
Et merci Lucas.
Le yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.
Aïe 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 aïe, c'est bim.